VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 19 février 2021. Abdelrahman Diallo, la présentation, voici les titres. Le Nigérien retourne aux urnes ce dimanche pour le second tour de la présidentielle, opposant Mohamed Bazoum à Mamman Ousmane. Plus de 500 cas de peste, dont 31 décès, ont été recensés en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Le président algérien libère des contestataires et appelle à de nouvelles élections après avoir dissous le Parlement. Le président américain Joe Biden participe à son premier sommet du G7 qui se tient en visioconférence. Également dans cette édition du Monde Aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Les Nigériens retournent aux urnes ce dimanche pour le deuxième tour de la présidentielle. Ils choisiront entre le candidat du pouvoir Mohamed Bazoum et l'ex-président et opposant Mamman Ousmane. Le point avec Eric Manirekiza.
Passer le pouvoir en 2021 à un successeur démocratiquement élu sera ma plus belle réalisation, a déclaré le président sortant Mahamadou Issoufou. Mohamed Bazoum, son fidèle lieutenant, affronte Mamman Ousmane, le premier président démocratiquement élu du Niger en 1993. Mohamed Bazoum dispose d'une coalition qui est a priori gagnante si les consignes de vote des partis sont respectées par leurs militants. Mamman Ousmane peut lui compter sur la coalition d'opposants CAP 2021, sur le soutien de l'ex-chef de la junte, Salo Djibo, et surtout sur celui de l'opposant au pouvoir, Ama Amadou, qui n'a pu se présenter. Jamais le Niger n'a eu de président élu se succéder depuis l'indépendance en 1960. La plupart des régimes ont été emportés par des putschs militaires. Il y a eu 6 élections et 4 coups d'État dans ce pays, qui est aussi l'un des plus pauvres de la planète.
Le premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko a quitté jeudi Abidjan pour la France par un vol spécial pour raisons de santé. Âgé de 55 ans, Ahmed Bakayoko, dit Ambak, a succédé en juillet 2020 au poste de premier ministre à Amadougon Koulibaly, décédé quelques jours après son retour d'une hospitalisation et d'une convalescence de 2 mois en France pour des problèmes cardiaques. La peste est de retour en République démocratique du Congo, où plus de 500 cas ont été détectés en Ituri, dans le nord-est, et une trentaine de morts ont été enregistrées. Le point avec Eddy Issango.
En Ituri, plus de 520 cas de peste, dont 31 décès, ont été comptabilisés, d'après le docteur Patrick Karamoura, ministre provincial de la Santé. Il rappelle que la maladie y est plutôt endémique, mais aucun cas de peste bubonique n'a été enregistré. 5 sont pulmonaires et 2 autres septicémiques. Des cas sont apparus entre les 15 novembre et les 13 décembre dans la zone de santé de Biringui, dans les territoires d'Aru, en Ituri, selon docteur Anne Lodi. Soit épidémiologiste à EcoHealth Alliance, une agence basée à New York qui séjourne dans la zone. Selon elle, il y a eu une mortalité massive des rats, ce qui est vraiment un indicateur. Les rats meurent de la peste et le plus transmettent la maladie à l'homme. L'OMS avait constaté cette résurgence depuis 2020 et avait alerté les mondes en juillet.
En Somalie, des échanges de tirs ont éclaté vendredi en marge d'une manifestation de l'opposition dans la capitale Mogadiscio, placée sous haute surveillance par les forces de sécurité. Les Nations Unies ont appelé au calme et à la retenue. La Somalie devait tenir des élections avant le 8 février, date de la fin du mandat du président Mohamed Abdoulaye Mohamed, dit Farmajo, mais le pays n'est pas parvenu à organiser ce scrutin en raison de dissensions politiques. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a fait hier un geste d'apaisement en graciant des détenus du mouvement Hirak à la veille du 2e anniversaire de ce soulèvement populaire. Il a aussi décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et a appelé à des élections anticipées. Les précisions de John Lyndon.
J'ai décidé d'accorder la grâce présidentielle à une trentaine de personnes pour lesquelles une décision de justice avait été rendue, ainsi qu'à d'autres pour lesquelles aucun verdict n'a été prononcé. Entre 55 et 60 personnes rejoindront leurs familles, a promis le président algérien dans un discours à la nation. Cette annonce est survenue à la veille du deuxième anniversaire du soulèvement populaire et qui a forcé Abdelaziz Bouteflika à renoncer à un cinquième mandat présidentiel et à quitter le pouvoir. Abdelmadjid Tebboune a par ailleurs décidé de dissoudre l'Assemblée nationale pour appeler à des élections anticipées, disant souhaiter ouvrir les portes à la jeunesse. Il a promis la mise en place prochaine d'un Conseil suprême de la jeunesse et un observatoire national de la société civile. Il a également annoncé un remaniement ministériel. Toutes ces mesures ne semblent avoir calmé les esprits, car des appels à manifester lundi dans toute l'Algérie circulent sur les réseaux sociaux.
Le président tanzanien John Magufuli, qui avait déclaré son pays libéré du Covid grâce aux prières, a admis à demi-mot ce vendredi la présence de cette maladie respiratoire sur le territoire. « Nous ne ferons aucun confinement », a-t-il toutefois assuré. « Continuons à placer Dieu en premier et à prendre des précautions », a-t-il dit. Depuis le début de la pandémie, le chef de l'État tanzanien a minimisé la dangerosité du coronavirus. Ces dernières semaines, la Tanzanie est toutefois frappée par une vague de décès de hauts responsables du régime. La Guinée équatoriale compte déménager son ambassade à Jérusalem, devenant le second pays africain après le Malawi à annoncer l'ouverture d'une mission diplomatique dans la ville sainte disputée. C'est à l'issue d'un entretien téléphonique entre M. Netanyahou et le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiangema. L'ambassade de Guinée équatoriale se trouve actuellement à Herzliya, près de Tel Aviv. De nombreux pays africains ont installé leur ambassade dans cette métropole côtière en raison de la dispute sur le statut de Jérusalem entre Israéliens et Palestiniens.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le G7 annonce son soutien de 7,5 milliards de dollars à la vaccination anti-Covid-19. Par ailleurs, le président américain Joe Biden annonce le retour de l'Alliance transatlantique. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
L'entretien virtuel a été dirigé par le premier ministre britannique Boris Johnson, président en exercice du G7. Cela n'a pas d'intérêt de vacciner nos seules populations. Nous devons nous assurer que le monde entier est vacciné, a déclaré M. Johnson. Le président Emmanuel Macron plaide pour que les pays riches envoient 3 à 5% de leurs doses disponibles à l'Afrique. Le président Joe Biden a promis 4 milliards de dollars pour le dispositif onusien COVAX qui vise à fournir des vaccins anti-Covid-19 à 20% de la population de près de 200 pays. L'Union européenne a annoncé le doublement de sa contribution à COVAX à 1 milliard de dollars et une contribution de 100 millions d'euros d'aide humanitaire en faveur de la campagne de vaccination en Afrique. L'Allemagne dit apporter 1,5 milliard d'euros supplémentaires à la lutte mondiale contre la pandémie.
Les États-Unis sont officiellement revenus vendredi dans l'accord de Paris au moment où l'administration du président Joe Biden s'est engagée à faire de la lutte contre le changement climatique une haute priorité. Joe Biden a affirmé donc ce vendredi que le monde ne pouvait plus se contenter de faire le strict minimum pour lutter contre le changement climatique, une crise existentielle mondiale selon lui. Près de 4 ans après l'annonce par Donald Trump du retrait des États-Unis, ce retour de la première économie du monde, deuxième plus grosse émettrice de gaz carbonique, signifie que la quasi-totalité des nations de la planète sont aujourd'hui partie prenante de l'accord signé en 2015. La Commission européenne a donné son aval vendredi à la poursuite du transfert des données personnelles vers le Royaume-Uni, une question clé dans les relations post-Brexit pour de nombreuses entreprises et pour la coopération policière. La vice-présidente de la Commission, Vera Jourova, a précisé que des mécanismes avaient été prévus pour pouvoir surveiller, réexaminer, suspendre ou retirer cette décision en cas d'évolution problématique côté britannique. En France, un responsable d'un centre d'accueil de réfugiés dans le sud-ouest a été tué ce vendredi par un demandeur d'asile soudanais qui lui a apporté plusieurs coups de couteau. L'agresseur, âgé de 46 ans, a été arrêté. Il est connu de la police pour des faits de violence et avait effectué un passage en prison, mais il était inconnu des services de renseignement et selon une source proche du dossier, l'attaque n'est pas considérée comme terroriste. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé ce vendredi les attaques contre l'indépendance de la justice en Haïti après le placement en détention d'un haut magistrat accusé de tentative de coup d'État. Le juge de la Cour de cassation, Ivikel Dieu-Juste d'Abrésil, ainsi qu'au moins 22 autres personnes ont été arrêtées le 7 février dans des circonstances qui peuvent équivaloir à une arrestation illégale ou arbitraire, a déclaré un porte-parole du Haut Commissariat. Le juge a été libéré, mais 17 autres personnes sont toujours en détention préventive. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco présentée ce soir par John Lindon.
Le trafic passager d'Air Côte d'Ivoire, partenaire de Air France KLM, a baissé de moitié en un an en raison du Covid-19. Le nombre de passagers transportés est passé de 762 000 en 2019 à 333 000 en 2020. Le chiffre d'affaires a également chuté, passant de 96 milliards de francs CFA en 2019 à 45 milliards de francs CFA en 2020. Air Côte d'Ivoire dessert quelques 20 capitales africaines et occupe 52% du marché en Afrique de l'Ouest et centrale. Les États-Unis, par l'intermédiaire de l'USAID, ont décidé d'appuyer le plan de relance économique sénégalais post-Covid-19. Selon Financial Afrique, le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré PAP2A bénéficiera d'un appui financier de quelques 600 millions de dollars sur 5 ans. La nouvelle convention a été signée à Dakar par le ministre sénégalais de l'économie et le directeur de l'USAID Sénégal. Le groupe Maroc Télécom réalise un chiffre d'affaires de 4 milliards 122 millions de dollars sur le seul quatrième trimestre et malgré la baisse des terminaisons d'appels mobiles au Maroc en décembre 2020, le chiffre d'affaires du groupe affiche une hausse de 0,7% grâce à la hausse soutenue des activités des filiales Move Africa et du haut débit fixe au Maroc.
À présent, la page des sports avec Yacouba Traogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Suite des deuxièmes sorties pour le groupe C à la CAN des moins de 20 ans qui se joue en Mauritanie, la Tanzanie fait face à la Gambie et le Maroc et le Ghana, leaders du groupe, s'affrontent. Belle opération hier pour les Burkinabés lors de leur deuxième sortie dans la phase de groupe. Le Burkina Faso a battu la République centrafricaine 3-1 pour s'emparer de la tête du groupe B avec 4 points. Les étalons juniors sont suivis par la Tunisie qui a disposé de la Namibie 2-0. L'attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zaha, a déclaré qu'il va cesser de s'agenouiller avant les matchs de Première Ligue. « Je ne vais pas poser le genou à terre, je ne vais pas porter Black Lives Matter au dos de mon t-shirt parce que j'ai l'impression que c'est comporter une cible », a déclaré l'international ivoirien. Le joueur de 28 ans a affirmé que ses parents lui ont dit qu'il doit être fier d'être noir et qu'il doit se tenir debout, ajoutant « Ce geste est devenu quelque chose que nous faisons juste comme ça et ce n'est pas suffisant pour moi ». Wilfried Zaha dit qu'il souhaite plutôt voir des actions concrètes pour lutter contre le racisme. Les joueurs, les officiels et le personnel des matchs de Première Ligue posent un genou à terre avant le coup d'envoi des rencontres depuis la reprise de la saison 2019-2020 en juin pour montrer leur soutien à la lutte contre les inégalités raciales. Ici, en NBA, le choc de la nuit dernière a tourné à l'avantage de Brooklyn contre les Lakers 109-98, ce qui n'a pas empêché LeBron James de continuer à écrire l'histoire en dépassant les 35 000 points. Les Bucks de Milwaukee ont subi la loi des Raptors sur leur parquet 110-96, concédant leur cinquième revers d'affilée. Nick Powell, 29 points, et le Camerounais Pascal Siakam, 27 points. Emporté les Raptors, Miami s'est imposé à Sacramento, 118-110. Toujours ici, aux États-Unis, la 70e édition du All-Star Game, dont la tenue est contestée par des vedettes de la NBA, se déroulera le 7 mars à Atlanta, ont confirmé les organisateurs dans un communiqué, fortement décrié la compétition de basket qui réunit les meilleurs joueurs de la NBA de la côte Est et de la côte Ouest, se déroulera dans l'antre de l'équipe des Atlanta Hawks. Plusieurs joueurs célèbres, dont LeBron James, ont critiqué la décision de la NBA de maintenir un All-Star Game alors que la saison 2019-2020 de basket s'est terminée historiquement tard du fait de la pandémie de Covid-19.
Merci à Cuba.
Aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Diack, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Et on démarre par le Niger où la campagne pour le second tour de l'élection présidentielle du dimanche s'achève ce vendredi. Les deux candidats, Mohamed Bazoum du parti au pouvoir et Mamadou Ousmane de l'opposition, tiennent les derniers meetings pour convaincre les populations de la pertinence de leur programme politique. Les attentes des citoyens sont fortes envers le futur président. Sécurité, éducation et lutte contre la corruption. Le reportage de notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
La résolution du problème sécuritaire auquel le pays fait face depuis presque une décennie reste la principale attente des Nigériens vis-à-vis de leur futur président. Le pays subit en effet des assauts répétés de groupes terroristes à ses frontières avec le Nigeria et le Mali. Dans la région de Tillabéri, par exemple, proche du Mali, les Nations Unies ont dénombré 258 attaques entre janvier et novembre 2020. Boubacar Yalo, président du Conseil des éleveurs Nord Tillabéri.
Notre souhait, c'est celui qui viendra au pouvoir, n'ont qu'à créer les conditions pour qu'une vraie paix définitive et durable soit en tout cas trouvée dans la région de Tillabéri, y compris celui de Difa. Et je crois que la nomination des hauts représentants du président pour la question sécuritaire, qui va s'occuper exclusivement de cette question, va faire en sorte qu'une solution définitive et durable soit trouvée.
Un autre domaine dans lequel les Nigériens expriment de fortes attentes vis-à-vis du futur président, c'est celui de l'éducation. Du fait de ses faibles performances, le pays est mal loti dans le classement du PNUD sur l'indice de développement humain.
Si le Niger tient encore le dernier rang, c'est parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de ressources au niveau de l'éducation. Donc le souhait, c'est de voir au moins 20 à 25% du budget être alloué à l'éducation.
L'attente soit énorme. C'est de réformer le système éducatif et voir un peu la décomposition, la défragmentation des ministères en charge de l'éducation. Jusqu'à 6 aujourd'hui, juste pour faire des places à des amis, il faut arrêter ça. Je crois qu'il faut les regrouper en un seul ministère ou au plus en deux ministères pour que la gestion soit plus visible, plus traçable. Il faut revoir aussi le contenu de notre programme. Au niveau du primaire, c'est surdosé. Au niveau du secondaire, c'est surdosé. Les enseignants se fatiguent, les élèves se fatiguent.
En matière de gouvernance, également, le futur président est attendu, notamment sur la lutte contre la corruption. Les 10 dernières années ont été émaillées par des gros scandales financiers dont les auteurs sont restés en général impunis.
Les infractions assimilées à la corruption, les détournements des biens publics, la confusion, l'abus des biens sociaux, l'enrichissement illicite, tous ces mots-là qui ont gangréné aujourd'hui notre société, c'est de ce président-là qu'on veut, celui qui a le courage et qui peut se sacrifier pour l'intérêt du Niger. C'est de ce président dont on a besoin.
Le scrutin de ce dimanche 21 février opposera le candidat du parti au pouvoir Mohamed Bazoum, crédité de 40% au premier tour, à Mahamane Ousmane de l'opposition, arrivé deuxième avec 17%. Cette élection consacrera le premier passage pacifique du pouvoir d'un civil à un autre depuis 30 ans que le pays vit sous une ère démocratique. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Bénin, l'élection présidentielle du 11 avril suscite une polémique entre l'opposition et la mouvance présidentielle. Au centre de la discorde, la question du parrainage des candidats à la présidentielle. Pour l'opposition, le pouvoir ne joue pas franc jeu. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adambé.
Depuis la publication par la commission électorale des candidats retenus pour la présidentielle, les passions se déchaînent. Par conférence de presse interposée, mouvance présidentielle et opposition se rejettent la responsabilité d'une élection présidentielle exclusive. Le député du Bloc républicain, Rachid Gbadamassi, à l'occasion d'une conférence de presse tenue jeudi à Viola récemment à Kléréké Amadou, la candidate des démocrates, un parti de l'opposition l'accusant de travailler pour une puissance étrangère. Pour Rachid Gbadamassi, au-delà de toutes les conditions prévues par la loi que doit remplir tout candidat sérieux, il est nécessaire que les candidatures obéissent à des normes éthiques, ce qui n'est pas le cas, selon lui, de Réki Amadougou.
M'invitant à plusieurs reprises dans la capitale d'un pays voisin, elle m'a fait miroiter une forte somme d'argent pour me motiver, me rassurant qu'un opérateur économique important était disposé à participer à nos réunions et à mettre le pactole à ma disposition. J'ai été à la rencontre et c'est là que j'ai davantage compris que j'avais affaire à des gens dont l'objectif inavoué était de prendre en otage notre pays. C'est à cet instant que je me suis dit que s'il faut parrainer quelqu'un qui sera le pion d'une force politique étrangère, ce sera ça mon concours.
Suite à cette sortie médiatique, la réponse du camp pointée du doigt n'a pas tardé. Dans la même soirée de ce jeudi, le colistier de la candidate Réki Amadougou a déclaré à la presse que le député a manqué d'honnêteté tout au long de sa déclaration. Pour Patrick Divor, ce sont certains de la mouvance, dont le député Rachid Gbadamassi, qui sont allés solliciter Réki Amadougou pour, a-t-il dit, chasser du pouvoir le président Patrice Talon. Il aurait même proposé sa fiche de parrainage et n'a jamais été démarché par la candidate des démocrates.
Gbadamassi a menti. Madame Amadougou ne lui a jamais proposé de l'argent pour avoir son parrainage. La sortie de Gbadamassi aurait permis de démontrer qu'il a usé de tentatives d'escroquerie politique et s'est rendu coupable d'une triple trahison.
Pendant ce temps, le processus électoral est en marche. La Cour constitutionnelle ayant rejeté les recours qui lui ont été adressés pour le report de l'élection présidentielle. La Cour a aussi refusé de sauter le verrou du parrainage comme le lui demandait l'opposition. Le professeur de droit, Joël Aivor, dont le dossier a été rejeté, persiste ici qu'il participera à cette élection en tant que candidat.
La seule raison d'être du parrainage est bien d'éloigner du président Talon. Tout candidat à sa succession, tout en étant imprévisible, est capable de défier les lois de la Cour électorale et de le surprendre dans les yeux.
Pour ceux dont les dossiers ont été acceptés, l'heure est à la mobilisation des troupes pour une victoire le soir du 11 avril. C'est le cas de Corentin Kowé qui fait le tour de certains partis de l'opposition afin de fédérer leurs efforts pour l'alternance au sommet de l'État.
Nous sommes venus chercher ce que nous avons tant souhaité depuis 2016, c'est-à-dire un consensus autour de l'opposition pour pouvoir battre le président Talon.
Pour les membres des partis de la mouvance présidentielle, Patrice Talon mérite une seconde chance pour la restauration complète de la démocratie et pour le développement engagé depuis 5 ans.
On l'a vu à l'œuvre. Nous avons vu les prouesses qu'il a fait en 5 ans. Et nous estimons que si on le laisse, il pourra achever ce qu'il a commencé.
Jeudi, les candidats retenus dans le cadre de l'élection présidentielle d'avril 2021 se sont soumis au processus de la visite médicale. La commission électorale tient au respect du calendrier électoral et fera les choses, selon son président, dans la transparence. De Cotonou, Ginette Feuadandé pour VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, dans les quartiers périphériques communément appelés non lotis, le respect des mesures barrières contre le coronavirus reste difficile. Les populations de ces zones précaires manquent presque de tout, une situation qui n'est pas sans conséquence sur la remontée des cas dans le pays, selon les spécialistes en santé communautaire. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Dans ce quartier non loti de Ouagadougou, sans eau potable ni électricité, ce n'est pas le respect des mesures barrières qui est la priorité. Tous ici ont entendu parler de la maladie et ce qu'il faut faire pour s'en protéger. Mais seulement, ils sont commis à le faire.
Il y a des gens, même moi-même, je ne l'ai pas respecté.
Sophie Bayala est une habitante du quartier.
On n'a pas respecté la distanciation physique, et le cache-nez. On ne lave pas les mains régulièrement au quartier. Dans les quartiers, on ne peut pas mettre de lave-mains pour que tous ceux qui passent puissent laver leurs mains. C'est un peu compliqué. Même si c'est le port du cache-nez, on peut porter. Voilà, ça aide.
Modeste Sawadogo est aussi un habitant du quartier.
Tout citoyen lambda doit accepter, quelle que soit ta négligence. Il y en a qui négligent et qui disent que ce n'est pas vrai. Tu as vu, nous sommes assis ici. En réalité, y a pas, personne ne porte de cache-nez. Pourtant, moi, personnellement, j'ai du casino dans ma poche. Donc, c'est possible. Avec notre entourage, il y a souvent même les poignées de main que on ne séparait pas.
Angèle Zoma, une autre habitante.
Je sais qu'on doit se protéger seulement. Il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas ça. L'argent des casinos, on ne donne pas là. Tu vas payer casinos aujourd'hui, ça va perdre. Demain, tu vas payer un autre casinos. Donc, c'est compliqué pour porter les masques là. 200, 200, c'est cher. Si c'était pour 100, 100, 100, au moins 50, 50, comme ça, tout le monde pouvait payer ça.
Il y a problème si ces populations ont du mal à respecter ces mesures barrières, non seulement pour elles, mais aussi pour le reste de la population.
Covid-19 vient mettre à jour frisant une situation déjà existante, qui est qu'il y a une inégalité en matière de santé liée aux revenus, au niveau d'éducation, au milieu de vie, à l'accès à l'eau potable, à l'accès aux services sociaux de base.
Docteur Moumouni Niaouné est spécialiste en santé sociale, communautaire et comportementale.
Et les quartiers périphériques en général, qui ne sont pas lotis, sont encore plus touchés par le phénomène que d'autres. Et il faut se rappeler quelle peut être la conséquence de cette situation si une certaine partie de la population est ignorée, est laissée pour compte. On ne pourra jamais gagner face à cette maladie, ou bien on va encore en fait renforcer les inégalités en matière de santé, parce que même si d'autres, parce qu'ils sont plus nantis, sont mieux protégés, ces populations vulnérables seront toujours les sources de contamination, et donc la maladie ne pourra que continuer.
Le gouvernement, lui, continue de sensibiliser les populations sur le respect des mesures barrières. 139 personnes sont mortes du coronavirus depuis l'apparition de la maladie dans le pays. Plus de 11 000 personnes ont déjà fait la maladie depuis le début de la pandémie, selon des chiffres du ministère de la Santé. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, les démocrates ont présenté hier un projet de loi de l'administration Biden sur l'immigration. Il ouvrirait la voie à la citoyenneté pour 11 millions d'immigrés sans papier. Aussi, les autorités commencent dès maintenant à traiter les cas de demandeurs d'asile venus d'Amérique centrale qui ont été refoulés et forcés de rester au Mexique en vertu d'une politique de Donald Trump. Patsy Widakuswara, correspondante de la VOA, la Maison Blanche, fait le point. Le récit est de Lionel Gaïma.
À partir de ce vendredi, les autorités américaines vont commencer à traiter jusqu'à 25 000 migrants refoulés en vertu des dispositions de leur Trump. C'est une bonne nouvelle pour les demandeurs d'asile. Nicole Buesso est une migrante venue du Honduras.
Un miracle est en train de se produire et nous en sommes très heureux.
Les législateurs démocrates ont présenté hier un projet de loi visant à augmenter des ressources pour gérer les retards accumulés pour les demandeurs d'asile. La loi sur la citoyenneté va augmenter également les plafonds pour les loteries de cartes vertes, changer le mot étranger en non-citoyen et ouvrir la voie à la citoyenneté pour les 11 millions d'immigrants sans papier. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.
C'est basé sur des valeurs, mais aussi c'est économiquement avantageux. Les immigrants qui viennent dans notre pays avec leurs espoirs et leurs rêves, leur optimisme et leur détermination à rendre une vie meilleure pour leur famille, ce sont des valeurs américaines.
Destinées à rompre avec 4 années de politique dure de Donald Trump en matière d'immigration, ce projet de loi ne recevra certainement pas assez de soutien républicain au Sénat. Laura Rice de la Heritage Foundation, un groupe de réflexion conservateur.
C'est un projet de loi très radical parce qu'il ouvre grandement la frontière à des vagues supplémentaires d'immigration clandestine. Ainsi, plus d'étrangers vont entrer illégalement aux États-Unis et nous n'en exclurons pas.
Le projet de loi reflète les priorités en matière d'immigration que le président Joe Biden a présentées quelques heures après sa prestation de serment. L'attaché de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki.
Le président estime que toutes ces demandes qui figurent dans ce projet de loi le rendent complet et doivent toutes être traitées.
Un peu plus tôt ce mois-ci, Joe Biden a aussi annoncé une autre rupture avec l'administration Trump. L'augmentation des admissions des réfugiés réinstallés aux États-Unis qui vont passer de 15 000 à 125 000 par an. La réforme de l'immigration est une grande promesse de campagne de Biden qu'il s'empresse de réaliser pendant que les démocrates détiennent la majorité au Congrès.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnon et Joselle Morissin. À la présentation, Abdourahmane Diar. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.